Good job. Good job, le podcast pour s'épanouir au travail.
80% des femmes se disent concernées par le sexisme au travail. Un fléau source de mal-être, mais aussi de discrimination qui nous concerne toutes et tous. Pour Maxime Ruzniewski, avocat de formation, auteur du petit manuel du féminisme au quotidien, paru aux éditions Marabout, la gente masculine a aussi un rôle à jouer pour changer la donne. Fondateur de la start-up Remixed, membre du Haut Conseil à l'égalité entre hommes et femmes, cet ancien conseiller auprès de la ministre Najat Vallaud-Belkacem au ministère du Droit des Femmes nous apporte un éclairage pour le moins engagé. Bonjour Maxime.
Bonjour Fabienne.
Comment vas-tu?
Ça va très bien.
On est réunis pour parler d'un sujet qui nous tient à cœur tous les deux, le sexisme et notamment le sexisme au travail. Alors je te propose de mettre directement les pieds dans le plat. Je vais te faire écouter un extrait d'une campagne qui a été réalisée par l'Académie de Rennes en 2020 et je vais te demander de réagir.
Ouais, tu peux me réorganiser ça en colonne du coup.
Colonne.
Attends, j'uniformise.
Ouais, on comprendra mieux.
Je t'en mets combien là?
Pas trois. Et Jean-Marc,
ouais.
Tu sais pourquoi les femmes ont toujours les deux mains sur les hanches?
Bah non.
T'as déjà vu une cruche sans poignée?
T'abuses.
Oh, qu'est-ce que t'es coincé? C'est une blague?
Elle a pas compris la blague, elle fait sa blonde.
Là, franchement, vous êtes lourd.
Bon, en tout cas, t'es canon dans cette robe, Aurélie.
Qu'est-ce que ça t'inspire?
Alors, ça doit être la déformation professionnelle, parce que moi, je fais de la formation, mais ce que ça m'inspire, c'est cette phrase de la victime. Qu'est-ce que vous êtes lourd? Et cette phrase est extrêmement intéressante parce que c'est finalement celle qu'on nous ressort en permanence. Et c'est oublier qu'il ne s'agit pas d'un comportement lourd, mais qu'il s'agit d'un comportement délictueux. En l'occurrence, il faudrait que je réécoute la scène et voir comment on la qualifie, mais on est proche du harcèlement non pas sexuel, mais du harcèlement sexiste qui existe en entreprise. Et le fait, par exemple, et c'est le cas dans cet extrait, de faire des, je mets des gros guillemets, parce qu'on nous écoute, on ne voit pas, mais des blagues lourdes, parce qu'on va bien voir, ça n'existe pas, devant une femme, même si elle n'est pas destinataire de cette blague, eh bien, c'est quand même revenir à une situation de harcèlement sexiste. C'est-à-dire que même quand on est en situation passive et qu'on n'est pas la cible directe d'une interpellation, à partir du moment où il y a une qualification de sexisme, voire pire, on est quand même victime. Et donc oui, ça m'inspire finalement ça, c'est-à-dire que beaucoup, beaucoup de Françaises et de Français ne réalisent pas à quel point ce qu'on appelle aujourd'hui la lourdeur, ce sont des comportements délictueux qui peuvent justifier non pas un blâme, mais un licenciement, voire même pire, et parfois on retrouve des gens au pénal. Donc il faut faire extrêmement attention sur ces sujets, parce que pendant très longtemps, on s'est dit c'est de l'humour gras, c'est la France, c'est l'humour cabotin, et puis en même temps, on n'a pas envie d'être comme aux États-Unis. Qu'on soit d'accord ou pas avec ça, il y a un truc qui s'appelle la loi, et il faut faire avec. Donc c'est pas un débat de société, c'est juste une application stricte des textes, et c'est ce que je répète souvent d'ailleurs à mes clients, d'où la nécessité de comprendre que là, ce qu'on vient d'entendre est absolument injustifiable.
Au-delà de cet exemple concret, c'est quoi le sexisme ?
Le sexisme, c'est un ensemble de comportements ou de propos qui visent à dévaloriser l'autre, en lui signifiant que son genre est par essence inférieur à un autre et que donc on peut, par des comportements, par des actes, par des mots, mettre cette personne dans une situation d'infériorité ou lui faire sentir une situation d'infériorité. Et ça, c'est absolument interdit. Et donc, c'est vrai que le sexisme peut finalement s'approprier à des scènes de la vie quotidienne extrêmement nombreuses. Ça peut être le fait de traiter quelqu'un de, bah justement, de « fais pas ta blonde » ou « arrête de faire ta cruche », etc. Donc là, on voit bien qu'on est dans une infériorisation objective, hein, uniquement en raison du genre. Et puis, ça peut être des comportements blessants, discriminants par ricochet, hein, qui vont vraiment qualifier cette situation de sexisme. Donc, le man-interrupting en fait partie, le fait, par exemple, de couper la parole sans cesse à une femme, le mansplaining aussi. Le mansplaining, c'est le fait de se réapproprier finalement les propos d'une femme à son compte ou de les reformuler en expliquant qu'on sait mieux qu'elle. Donc voilà, c'est des comportements qui vont parler à toutes celles et ceux qui nous entendent malheureusement. Le sexisme, c'est aussi des petites phrases comme ça du quotidien qui font que on va dire à un homme « Pourquoi tu pars à 4 heures ? Ta femme pourrait très bien aller chercher les enfants à ta place. » Voilà, bien que, s'agissant des hommes, je parle plutôt de comportement sexiste plutôt que de sexisme, où là, le sexisme, on est quand même face à un phénomène sociétal qui concerne les femmes.
On l'a vu dans l'extrait, il y a encore aujourd'hui l'idée que c'est juste pour rire, c'est des blagues. Or, il y a des vraies conséquences, des vrais impacts. Est-ce que tu peux nous expliquer les conséquences concrètes du sexisme ?
Oui, les conséquences du sexisme sont nombreuses. Elles ont un impact à la fois psychologique, physique sur les victimes, et elles ont surtout un impact sur le très court terme, mais aussi après sur le long terme. Je m'explique. Lorsqu'on est victime de sexisme, on va évidemment se sentir humilié, offensé, infantilisé, marginalisé. Autant de comportements qui font que la victime ne va pas avoir finalement tant envie d'aller au travail que ça. C'est pour ça que je dis souvent que lutter contre le sexisme, c'est bon aussi par effet de miroir pour l'entreprise, puisque c'est donner le sentiment aux salariés qu'elles sont à leur place, en fait, quel que soit leur âge, quel que soit leur physique, quel que soit leur genre. Et sur le long terme, ça va aussi avoir des conséquences, le sexisme. C'est-à-dire qu'il ne faut pas seulement penser que c'est un moment comme ça d'humiliation et de fragilisation, oui, de la personne. Ça va être, par exemple, le fait que, statistiquement, les femmes demandent moins souvent d'augmentation. Quand elles demandent une augmentation, c'est dans des proportions moindres. Pourquoi ? Parce que, comme justement, depuis qu'elles sont toutes petites, on leur a appris à se faire plus discrètes, à moins revendiquer, à plus s'effacer au profit des hommes. Et ça commence très, très tôt. Les stéréotypes de genre, ça commence dès l'école. Eh bien, des années après, cette autocensure, bien qu'elle ne soit pas uniquement féminine, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire, il y a beaucoup d'hommes, évidemment, qui s'autocensurent, mais globalement, il y en a des chiffres là-dessus. On a une manière de négocier qui est différente encore aujourd'hui, malheureusement, quand on est une femme cadre aussi, notamment. Donc voilà, le sexisme a des comportements sur le coup, sur le long terme, et bien pire que ça, dernière chose, le sexisme a aussi des conséquences extrêmement néfaste et surtout beaucoup plus grave qu'un simple agissement sexiste au travail. Par exemple, on sait aujourd'hui que les violences sexistes et sexuelles étant un continuum, le fait de tolérer les stéréotypes dans une boîte, typiquement, fait qu'il ne faudra pas s'étonner que des mois ou des années plus tard, il y ait une situation de harcèlement sexuel, voire d'agression sexuelle, voire pire, parce que ça existe. Donc, on sait qu'en matière de sexisme et de VSS, de violences sexistes et sexuelles, il faut avoir une tolérance zéro. Sinon, les conséquences peuvent être dramatiques après.
Est-ce que tu as l'impression que les choses bougent en entreprise, que ça évolue ? Et est-ce que la jeune génération aussi va changer les choses ?
Alors, c'est deux questions différentes. Est-ce que ça bouge en entreprise ? Oui, ce serait hypocrite totalement de dire que non, puisque quand j'ai créé Remixed en 2019, on n'en était pas du tout là. Là, il y a carrément des délégués diversité et inclusion dans les boîtes qui sont nommés, etc. Donc, je dirais qu'en tout cas, en termes de prise de conscience, ça bouge. Est-ce que dans les actes, ça bouge ? C'est quand même le plus important. Je suis moins complètement convaincu. Ça va prendre évidemment un petit peu de temps. Mais ce que je dis souvent à mes clients, c'est qu'il faut faire peu d'actions, mais les mesurer. Mesurer l'impact, comprendre ce qui a été dit, ce qui a été fait, combien de personnes ont participé, qui a répondu quoi, qu'est-ce que vous en avez retenu, plutôt que de faire tous les ans, par exemple, un 8 mars, mais juste faire ça de manière un peu symbolique ou faire une grande communication. Ça, pour moi, c'est les années 2000. Il faut dépasser ça maintenant. Moi, je suis vraiment dans la culture du résultat dans l'entreprise et je trouve que c'est extrêmement important de mesurer un progrès, par exemple, et de voir combien de personnes ont vraiment fait nos parcours de formation. Ça me semble super important. Donc, je répondrai oui avec mesure. Et s'agissant de ta deuxième question sur les jeunes générations, c'est totalement double tranchant. C'est-à-dire que c'est contrairement à quand j'avais 20 ans, typiquement, où il y avait un espèce de ventre mou, on était tous plus ou moins pour l'égalité, bon, mais on n'en faisait pas grand-chose. Là, aujourd'hui, il y a une part significative de la jeunesse, et notamment qui est très forte chez les jeunes diplômés du supérieur, qui nous disent « je ne ferai pas sans l'égalité femmes-hommes ». C'est-à-dire que ça ne sert à rien d'essayer de me recruter. S'il n'y a pas une tolérance zéro sur le sexisme, s'il n'y a pas une égalité professionnelle stricte, en gros, moi, je me mettrai à mon compte ou j'irai ailleurs. Donc là, je dirais que les boîtes ont presque par opportunisme, ont un devoir, une obligation d'aller sur ces sujets parce que sinon, ils vont perdre les talents. Mais dans cette jeunesse, malheureusement, et ça, c'est assez nouveau aussi, il y a aussi une partie qui est plus résiduelle, mais qui est quand même importante et qui, elle, est dans une espèce de volonté, et bon, c'est surtout des jeunes hommes, évidemment, de retour en arrière, donc un peu de backlash, comme on dit, où finalement, des valeurs complètement dépassé, totalement ancestral sur le rôle traditionnel de madame à la maison et inversement des hommes qui doivent rester des hommes forts, qui mangent beaucoup de viande, qui font des bootcamps, qui supportent pas les féministes, qui détestent ce qu'ils appellent les hommes soja. Moi, je me fais souvent traiter d'homme soja, ça me fait trop rire. J'ai mis longtemps à comprendre ce que c'était.
Que faire si on est victime de sexisme au travail ?
Plusieurs choses. Déjà, je pense ne pas rester seul. C'est-à-dire que pour les plus courageuses qui nous écoutent ou qui connaissent des gens d'ailleurs qui sont concernés, on peut évidemment aller voir les RH, on peut aller voir son référent harcèlement. Alors, je rappelle que c'est obligatoire dans toutes les entreprises qui ont au moins un CSE. Donc, c'est quand même beaucoup, beaucoup d'entreprises en France. Hein. Donc là, vous pouvez aller voir cette personne à condition qu'elle soit formée. Là aussi, on en revient toujours au même sujet, c'est-à-dire former, y compris les référents harcèlement. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont des référents harcèlement, mais qui ne les ont pas suffisamment bien formés. Donc, les victimes peuvent aller voir cette personne-là. Et sinon, quand je dis ne pas rester seul, c'est certainement se confier à un ou une collègue qui pourra peut-être justement accompagner la victime dans cette démarche-là. Et se dire qu'aujourd'hui, on est protégé en tant que lanceur d'alerte, on est évidemment protégé en tant que victime. Et c'est banal de le dire comme ça, mais de toujours, toujours se dire que, un, vous n'y êtes pour rien, et que, deux, le coupable, c'est l'autre. Et même si cette personne est placée au-dessus de vous, il y aura toujours des gens pour vous protéger à partir du moment où vous vous dirigez vers les bonnes personnes. Mais le pire du pire, c'est de rester dans le silence.
Pour changer la donne, il y a besoin d'une prise de conscience collective et pas seulement des femmes. Je vais te lire un extrait du livre de Béatrice Barbus, sociologue, ancienne handballeuse qui occupe aujourd'hui des responsabilités au sein de la Fédération française de handball et qui a écrit un livre qui s'appelle « Du sexisme dans le sport ». Il s'agit d'un passage de l'avant-propos de la deuxième édition. Dimanche 29 janvier 2017, les Bleus du handball viennent d'être sacrés champions du monde à domicile à Paris. La fête bat son plein, bénévoles et dirigeants venus de toute la France trinquent et dansent pas très loin de l'endroit où le sacre a eu lieu. Le lendemain matin, j'ai cours, alors personnellement je ne peux pas profiter pleinement de la fête, je sors vers minuit environ pour fumer une dernière cigarette avant de partir. Un homme entre 40 et 50 ans, sorti pour fumer une cigarette lui aussi, s'approche de moi. « Bonjour, vous ne me connaissez pas, mais je voulais vous remercier et vous dire que je suis un gros con. Pardon ? Je ne comprends pas. Pourquoi vous me dites cela ? J'ai lu votre livre et j'étais présent dans la salle lorsque René vous a lancé qu'il était votre premier souteneur. Et j'ai ri, comme tout le monde. Pardon, j'étais un gros con et votre livre m'a permis d'en prendre conscience. Depuis, j'essaie de changer mon comportement et de réfléchir sur moi. Pour ma femme, mes filles, je voulais vous remercier vraiment. » Grâce à la lecture d'un livre, cet homme a pris conscience qu'il participait sans le savoir à la souffrance des femmes d'une part et donc à la reproduction du sexisme d'autre part. Il s'en voulait d'avoir ri avec tout le monde alors qu'intérieurement, moi, je souffrais. Or, le combat contre le sexisme n'est pas qu'une affaire de femmes. Sans la bonne volonté d'une majorité d'hommes, sans ses alliés, il sera impossible d'avancer vers plus d'égalité. Ce combat ne peut se faire sans l'implication des hommes.
Oui, bah évidemment. Alors, déjà, première réaction, c'est le fait que cet homme ait une femme et deux filles. Parce que ça joue énormément. Il y a eu des études passionnantes là-dessus. Hein, quand un homme a des enfants et a fortiori des filles, ça change beaucoup de choses dans sa vision, sa conception de l'égalité femmes-hommes. On voit qu'on a beaucoup plus d'alliés dans cette catégorie-là. S'agissant de la conclusion, évidemment, je peux que souscrire à ça. En tant qu'homme féministe qui travaille sur ces sujets depuis maintenant 14 ans, enfin, je suis mais absolument convaincu qu'on n'y arrivera pas en fédérant davantage d'hommes autour de nous. Pourquoi ? Tout simplement parce que le camp d'en face, en fait, ceux qui n'ont aucun intérêt à ce que l'égalité se fasse, il est extrêmement organisé. Il a besoin de personne, il y a une très grande entraide, des liens très puissants, pas de division. Alors que chez les féministes, il y a souvent beaucoup de divisions, beaucoup de courants, de sous-courants, etc. C'est pour ça que je dis souvent qu'il faut qu'on reste soudés. Et rester soudé, ça veut dire aussi être accueillant et inclusif. Et donc, il faut que les hommes aient à leur juste place, évidemment, parce qu'un homme féministe doit aussi être à sa juste place et d'abord écouter avant de dire « Ah oui, mais moi aussi, je suis victime d'eux, moi aussi, ça n'a pas été facile pour moi. » Oui, on sait, c'est facile pour personne dans la vie. Mais donc, il faut, à partir du moment où on rejoint une cause féministe, quelle qu'elle soit, on n'est pas obligé d'être en manifestation ou dans une association. On peut juste, par exemple, se dire féministe à un dîner entre potes, c'est déjà énorme comme pas, ou faire l'égalité à la maison. Donc voilà, se dire, je trouve que la réaction de cet homme est intéressante, se dire, voilà, avant j'étais comme ça, aujourd'hui j'ai envie d'être comme ça. Et oui, je peux changer, j'ai les armes aujourd'hui pour changer, on n'a jamais eu autant de littérature, de textes, de podcasts, de médiums, de la connaissance est là, en fait, pour comprendre que les inégalités existent. Et je crois aussi, vraiment de manière très sincère, que beaucoup d'hommes sous-estime à quel point l'égalité femmes-homme comme projet de vie pour la société est utile non seulement aux femmes et à toutes les futures femmes et toutes les jeunes femmes qui aujourd'hui souffrent déjà malheureusement de sexisme, mais aussi cette révolution est aussi très intéressante pour eux-mêmes. Parce que voilà, je trouve que depuis le Covid, on s'interroge beaucoup sur le sens de nos vies, la place qu'on consacre au travail, le temps qu'on consacre à nos enfants. Et le fait de participer, de s'inscrire dans ce mouvement-là, c'est pas anodin. C'est aussi une manière de se dire, bon bah ok, je laisse de côté les poncifs sur le virilisme, la masculinité, le fait que je sois obligé d'être toujours le plus fort, de sentir que je dois toujours faire mes preuves tout le temps, etc. Bah non, il y a beaucoup d'hommes qui ont envie de se reposer sur leur partenaire, de pas toujours endosser ce rôle de chef de famille, de bon père de famille qu'on nous vend depuis tant d'années. Et donc, comme je le répète souvent, beaucoup d'hommes ont peur de perdre des privilèges, mais ils vont en gagner beaucoup d'autres. Et en ça, je pense que l'égalité femmes-hommes, c'est quelque chose de... Enfin, c'est un pari intéressant pour les hommes aussi.
Et justement, tu parlais de féminisme. Pour resituer encore, et pour beaucoup de personnes, ça reste entre guillemets un gros mot, quelque chose de très extrémiste. Ça veut dire quoi concrètement être féministe ?
C'est vrai que je ne me l'explique pas, ça. Les années passent et ça ne change pas. C'est un peu mieux quand même depuis 2012 où j'ai commencé... carrément, c'était féminisme égal fémène. Déjà, ce qu'il faut se rappeler, c'est que c'est grâce aux féministes que les femmes ont le droit de porter un pantalon, c'est grâce aux féministes que les femmes peuvent avorter, c'est grâce aux féministes que les femmes peuvent avoir un carnet de chèques ou se présenter à une élection. Enfin, j'en zappe beaucoup, mais merci les féministes. En fait, il faut commencer par ça. Il y a beaucoup de femmes qui ne réalisent pas à quel point elles doivent leurs droits aux féministes, et uniquement, ça s'est pas fait par opération du Saint-Esprit. Et d'ailleurs, on le voit dans certains pays où les féministes ne se battent pas assez, c'est terrible. Regardez ce qui se passe aux États-Unis. Enfin, il y a énormément de recul, et notamment sur l'IVG, c'est terrible. Donc déjà, oui, remercions-les, et prenons juste conscience du fait qu'être féministe, c'est ni plus ni moins être pour l'égalité femmes-hommes. Après, que certaines féministes, par leur radicalité, empêchent certaines personnes de s'identifier à ce courant, c'est pas grave, vous pouvez avoir votre façon à vous de vivre le féminisme, vous pouvez même ne pas utiliser le mot. Moi, j'aime bien ce mot. D'ailleurs, je dis pas que je suis allié, moi, je dis que je suis féministe parce que je pense qu'il faut qu'on se rassemble justement dans une même famille.
Est-ce que tu aurais des conseils particulièrement pour les managers pour prévenir le sexisme ? Est-ce qu'ils ont un rôle à jouer aussi ?
Alors oui, alors c'est pas seulement un rôle, c'est un devoir aussi. Enfin, ça fait partie de leur devoir, et notamment les RH, hein, c'est-à-dire un devoir d'information et de formation. C'est dans le code du travail, c'est dans le cadre des risques psychosociaux que tous les DRH connaissent bien, mais souvent ce droit il est respecté, mais est-ce qu'une affiche par exemple dans un couloir c'est suffisant ? Est-ce que faire un 8 mars une fois par an c'est suffisant ? Voilà, nous on a décidé de faire des campagnes très courtes d'une quinzaine de minutes, des campagnes de formation et de sondage où vraiment on explique les rudiments, et je pense que si déjà tout le monde faisait ça, mais on irait déjà tellement loin. Donc oui, il faut former, il faut aussi... former les référents harcèlement, pas seulement les nommer, c'est hyper important. Avoir une politique de tolérance zéro et surtout faire en sorte que la parole puisse se libérer sur ce sujet sans que les gens aient l'impression d'être jugés. Moi, j'ai l'impression que j'entends beaucoup, beaucoup de clients qui me disent « on veut pas de ton culpabilisant, on veut pas faire la morale, etc. » aux gens. Et je l'entends, ça. Et voilà, donc je pense qu'il faut faire attention autant au fond qu'à la forme.
Si je t'emmène dans le futur, à ton avis, en 2050, la question du sexisme au travail, elle sera comment ?
Une bonne question. Là, on est en 2024. Je pense que ça aura beaucoup changé. Je suis peut-être un peu trop optimiste, mais en 2050, on sera pas au top, mais on sera vraiment mieux. Après, est-ce qu'il y aura autant de femmes que d'hommes au poste à responsabilité ? Peut-être. En tout cas, on n'en sera pas loin, mais là, aujourd'hui, on en est encore loin. Ouais.
Pour terminer, la tradition de ce podcast, c'est que chaque invité pose une question à mon invité suivant. Donc, je vais te faire écouter la question de Jérôme Ouarau, qui était venu nous parler de soft skills.
Comment allez-vous instaurer une culture des soft skills dans votre quotidien ?
Alors, j'ai l'impression qu'on le fait quand même au quotidien, nous, parce que la RSE, le bien-être au travail, la manière dont on se comporte entre collègues, etc., ça fait partie vraiment de notre quotidien. Mais moi, ma dernière expérience qui m'a permis d'acquérir plus de soft skills et qui a été extrêmement probante, ça a été un séminaire d'équipe. Ça paraît bête parce que c'est le B.A.B.A. Mais j'invite tout le monde à en faire régulièrement parce que c'est formidable, en fait. On se rencontre autrement. Le fait d'être même physiquement dans une maison, de dormir au même endroit, ça change beaucoup de choses, je trouve. Donc, pour les petites équipes, hein, pour les grosses, je pense que c'est compliqué. Mais, Mais moi, le séminaire m'a permis d'en acquérir beaucoup. Ouais.
Quelle serait ta question à toi pour mon prochain invité sur ton sujet du sexisme au travail ?
Avez-vous déjà été témoin de sexisme au travail et avez-vous su comment réagir ?
Très bien. Merci beaucoup, Maxime.
Merci à vous.
À très bientôt. Bonne journée.
À bientôt.
Good job. Good job. Le podcast pour s'épanouir au travail. Ooh.